Goldorak, go!
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Un épisode où cette fois je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Cyril et de Margot. Bonjour vous deux, comment ça va ?
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on est là tous les trois pour parler un petit peu actualité. On est en plein dans l'actualité et on va revenir sur un titre que, sans trop tergiverser, on a beaucoup aimé.
Ça ne peut être que Goldorak.
À savoir le Goldorak, qui est sorti dans la gamme classique de chez Kana. Un one-shot de 160 pages pour l'histoire, avec quelques bonus qui est en fonction de l'édition.
Moins, c'est 160 avec les bonus.
Moins de 160 pages avec les bonus, dont des bonus différents en fonction de la version collector que vous ne trouverez pas parce qu'elle est déjà épuisée, et la version classique que vous ne devriez pas trop traîner à vouloir acheter si vous voulez l'avoir sous le sapin, parce qu'elle est déjà en rupture de stock un petit peu partout. On va revenir, nous, sur cette BD pour en parler, donner notre avis. On va rapidement passer sur qui est Goldorak, qu'est-ce qu'il a fait. Si vous voulez un petit peu plus d'infos là-dessus, je vous invite à aller sur le blog où il y a un article dédié à Goldorak, la BD, mais aussi la série, qui sera un petit peu plus complet que ce podcast au niveau de l'historique de Goldorak. Pour le reste, on est parti. Ça vous va ?
Parfait.
Du coup, revenons à nos moutons, ou à nos petits robots. Goldorak, c'est qui, c'est quoi ? C'est un super robot de l'auteur Go Nagai, qu'on a vu débarquer en France en 78, qui a eu un certain succès, plus qu'un certain succès, il y a eu la Goldorak Mania. Nous ne regardons pas Cyril qui se déguisait dans son salon avec le costume de Goldorak. Et nous, en France, on a eu droit donc à une série de dessins animés de 74 épisodes où, à l'époque, c'était diffusé le vendredi soir par tranche, en fin de journée après l'école, quoi. Et les premières diffusions se sont passées comme ça. Il y a eu plusieurs rediffusions, il y a plusieurs versions différentes, dont une très récente remasterisée avec des questions de droit. Sur lesquels la série était sortie de manière plus ou moins légale, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que dans la BD, tous les personnages sont de retour, qu'on retrouve évidemment les protagonistes principaux, à savoir la Patrouille des Aigles, Actarus, Goldorak, le professeur et toute la petite clique. Les seules personnes qu'on ne retrouve pas, c'est tous ceux qui sont morts à la fin de la série de Goldorak, la série animée, évidemment. Désolé pour le spoil, mais bon, ça fait un peu plus de 40 ans que la série est passée. Si vous ne l'avez pas vue, c'est trop tard. Mais vous pouvez toujours la retrouver. France 4 vient de mettre à disposition les premiers épisodes, donc les 40 premiers épisodes, sur France TV, sur leur site, donc France TV, par catégorie France 4 avec Goldorak, où tout est en accès libre. Donc si la BD vous a donné envie, vous pouvez jeter un œil. Je vais rapidement arrêter ce très très long monologue et je vais donner la parole à nos amis pour savoir comment et quel est votre rapport à Goldorak.
Je vais commencer étant le seul à avoir vu, je pense, Goldorak lors de sa primo-diffusion sur Recréa 2. Recréa 2 qui était présenté par Dorothée, donc l'ancêtre du Club Dorothée. Donc Goldorak, enfin voilà, comme tu disais, moi j'avais 5 ans, j'avais ma panoplie de Goldorak avec un espèce de gant en plastique qu'on jetait pour faire un fulgurepoint. Et le masque avec les cornes de Goldorak, bon voilà, donc je courais partout dans mon salon en me jetant sur mon canapé et en me prenant pour Goldorak. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc non, alors Goldorak, ouais, effectivement, ça a été à sa diffusion un truc un peu particulier parce que j'en ai des souvenirs assez vagues, je dois avouer, parce que je n'ai jamais revu Goldorak. Depuis, justement, à cause des histoires de droits, etc., les DVD, les cassettes vidéo de l'époque, les VHS, ça a été compliqué à trouver. Et puis quand ça a été disponible sur internet, je ne m'y intéressais plus guère. Et là, pour avoir re-regardé un épisode juste avant d'enregistrer le podcast, ça a quand même vachement vieilli. Mais bon, voilà, Goldorak, ça reste quand même ouais, un dessin animé, enfin une aventure chère au cœur de tous les gens qui l'ont vu, parce que c'était totalement nouveau.
Ben c'est ça, c'était totalement nouveau, et ça a quand même eu un impact dans l'imaginaire des gens, parce que quand t'es gamin et que tu tombes sur un super robot, t'en faut pas beaucoup plus quoi, pour imaginer les aventures derrière. Quoi.
Ouais, un super robot des temps nouveaux, comme disait la chanson. Mais non, voilà, Goldorak, c'est vrai que ça avait changé beaucoup de choses, enfin, ça a surtout développé l'imaginaire des enfants de l'époque, dans le sens où on avait à l'époque, qu'est-ce que c'était qu'il y avait à la télé ? Il y avait Nounours, il y avait, enfin voilà, ce genre de, le manège enchanté, ce genre de truc un peu gnangnan, un peu cucu, et on s'est retrouvé ensuite avec des robots qui se battent contre des monstres géants à coups de cornofulgure et d'astéroïdes. Enfin ouais, ça a eu un vrai impact sur les enfants qui l'ont vu à la primo diffusion, mais je pense aussi ceux qui l'ont vu après, un peu comme toi, Fab, qui a finalement été, je crois même, plus marqué que moi par la série.
Ouais, mais moi c'est normal. Moi j'avais le choix entre Goldorak ou Tonton Raciste et Tonton Bourré, donc tu vois, à un moment tu choisis vite. Hein.
T'as oublié Tonton qui envoie les gentilles figurines.
Oui, mais c'est parce qu'il n'est jamais là, lui. Mais voilà. Merci tout le temps pour la figurine. non, mais plus sérieusement, ouais, moi, c'est sur les rediffusions qu'il y a eu, allez, on va dire années 80, fin années 80, où moi, je suis tombé dessus. Et pareil, je devais avoir 7, 8 ans, peut-être un petit peu moins, quelque chose comme ça. Et moi, c'était vraiment le truc du robot qui volait. En fait, j'étais plus passionné par le fait que le robot rentre dans cette soucoupe. Hein. Tu vois, le fait que ça soit un truc télécommandable, que c'est pas un robot qui est tout seul. Enfin, j'avais toute cette imagination qui était vraiment là. Enfin, je trouvais ça super cool, quoi. Et puis, moi, j'avais droit au Goldorak, Albator, Ulysse. Tout ça, c'était en même temps les mêmes rediffs. Du coup, c'est tout un ensemble qui a fonctionné vraiment bien sur moi, quoi. Margot, je pense que toi, tu n'as pas vu la première diffusion, ni même la première rediffusion, ni même la deuxième rediffusion.
Non, en vrai, j'ai même jamais vu Goldorak. Moi, je connais de nom, parce que les trucs de grands robots, de méca et tout ça, j'ai commencé à m'y intéresser plus tard. Donc, je connais de nom, et je connais aussi de nom, surtout parce que c'est Go Nagai, et Go Nagai, j'ai adoré Devilman. Du coup, je connais plus de noms et de réputation que vraiment d'avoir vu. Moi, c'est pas du, enfin, sans offense, hein, c'est pas du tout ma génération. Et du coup, j'ai pas du tout regardé. Et je sais que, en fait, je m'en doutais et je le sais. Et donc, Cyril ne fait que confirmer que je me doute que ça a vieilli. Du coup, je sais, même après avoir lu la BD et aimé, je suis pas sûre que je vais regarder l'animé. Tu vois, je sais pas, peut-être un épisode par curiosité, mais je me doute que ça, à mon avis, un peu vieilli. Donc, je sais pas, mais c'est surtout pour Go Nagai que je connais un peu.
Du coup, on a un petit peu chacun un point de vue différent en fonction de quand on a découvert et de comment quelle approche on a par rapport à la série. Et alors moi, je vous avoue que j'avais eu l'info de la sortie quelques mois avant l'annonce. J'étais déjà comme un ouf et je l'attendais, mais genre vraiment beaucoup. Et donc, quand elle est sortie, je m'y suis jeté dessus, je l'ai lu le jour même. Enfin, on a eu la chance de recevoir la version service presse en numérique un petit peu avant. Je l'ai lu le soir même. Très sincèrement, j'étais comme un ouf. Genre, quand je l'ai eu, j'aurais pu rentrer chez moi, arrêter d'aller au travail et tout, et la lire tout de suite. Mais voilà, il y a des obligations, donc j'étais assez pressé de le lire. Et je sais pas, vous aviez peut-être, toi Cyril, peut-être une attente plus importante pour la série que Margot, je pense, parce que Margot, c'était de la curiosité que moi j'ai fait du forcing de ouf pour commander mon collector à la librairie. J'étais dit lis-le. Mais je sais pas lequel veut rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous attendiez du titre hein, ou...
Transfert.
Bah moi honnêtement, vu les noms qu'il y a dessus, même sans connaître, je me doutais un petit peu de la qualité du truc. Parce que bon, il n'y a pas des bébés bédéistes dessus. Donc, du coup, je me doutais un peu que ça allait être quand même qualitatif. Et en plus de ce que je savais, parce que vous aviez fait l'interview de Brice Cossu avec l'atelier BD, c'est que ça c'était une œuvre de fan, quoi. Vraiment un hommage. Un très bel hommage, quoi. Donc, du coup, je me doutais que ça allait être au moins qualitatif ou au moins fait avec amour. Mais après, au niveau histoire et personnages et tout ça, franchement, je m'attendais pas à grand-chose, quoi, parce que je connaissais pas. Ça pouvait très bien être mignonné comme tout ou pourri, que j'aurais peut-être même pas fait la différence si t'avais pas dit « Ah, c'est bien, lis-le !»
Toi, Cyril, tu l'attendais?
Alors moi effectivement je l'attendais, donc on en a parlé dès qu'on a eu l'info que ça allait sortir, parce qu'on se parle beaucoup quand même entre nous. Effectivement, voilà, puis l'image teaser de la BD avec ce fulgurobois enfoncé dans l'eau, rien que ça, quand je l'ai vu j'en ai eu des frissons. Et je dois avouer que le jour où Kana nous a transmis le PDF, je crois que tu me l'as envoyé le soir même et je l'ai lu dans la foulée aussi. Donc j'étais parti pour dire ouais, j'ai juste jeté un œil voir ce que ça donne et j'ai tout dévoré. Donc oui, je l'attendais avec impatience et je dois avouer que je ne suis pas déçu. Alors je reprendrai juste pour dire que je ne l'ai pas lu comme un fan absolu. Comme ils ont dit, comme disaient les auteurs lors de la conférence de presse, il y a les gardiens du temple de Goldorak qui connaissent les 74 épisodes par cœur. J'en fais pas partie. Néanmoins, j'avais cette attente de lire Goldorak. Et puis putain, c'est fait par des Français, quoi.
C'est ça.
Oui, il y a ça aussi. J'avoue qu'il y a ça aussi qui est plutôt classe quand même.
Ouais, non, mais les gars, les cinq. Alors au début, effectivement, il y a que le scénariste d'Horizon et puis Denis Bajram, je crois, qui était parti là-dessus. Puis ils ont fait venir les autres. Mais ils ont construit le dossier de presse. Ce dossier de presse, par le biais de Kana, est arrivé chez Gonagai. Gonagai a aimé. Et pour un studio japonais qui gère quand même ces trucs de façon très très stricte. Apparemment, le go pour pouvoir lancer la BD Goldorak a été donné super rapidement, quoi. C'est un truc qui n'arrive jamais.
Ouais, là, on va dire que enfin, c'était un peu un alignement de planètes pour que un projet comme ça se fasse à ce moment-là. Et c'est presque, tu vois, c'est presque l'alignement des planètes le plus total possible parce que la série marque, je crois, 40 ans de sortie ou quelque chose du genre. Il y avait du coup des timbres qui étaient prévus à cette effigie-là, sortie par la poste. Alors, concours de circonstances, je sais pas trop, mais je pense que Kana ne s'est pas mis d'accord avec la poste pour sortir deux timbres en même temps qu'une BD. Je suis pas certain que tu puisses aligner, tu vois, faire un alignement de produits comme ça jusque-là. Je suis pas certain, tu vois, que voilà, la coïncidence a dû faire que. J'ai pas trop les détails, mais je serais curieux de savoir. Parce que ça tombe vraiment, vraiment bien, quoi.
Après, peut-être qu'ils ont eu
Wow.
les. Alors, j'ai pas assisté à la conf, donc je sais pas du tout ce qui s'est dit, mais peut-être qu'ils ont eu les droits, genre, à un moment donné, et qu'on leur a dit, bah, écoutez, essayez de la sortir pour les cas. Parce que oui, c'est un anniversaire, parce que moi, je sais que tout le monde à la librairie vient me dire, ah oui, c'est les 40 ans ou je sais pas quoi de Goldorak, ils ont fait une BD, vous l'avez. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir les droits un peu avant, et tout le monde, enfin, à Kana, tout le monde a dû leur dire, on essaie de la sortir pour. Le truc anniversaire.
Je suis pas trop au point sur les 40 ans là, mais il me semble que c'est sorti en 75
45 ans?
Goldorak
Non,
et
mais je sais plus, mais c'est une
60,
date
78 en
anniversaire.
France. Si je fais une petite vérif sur mon
Bah, je
Wikipédia,
sais pas pourquoi
c'est
tout le monde vient de me dire ça alors.
ouais, non, parce que voilà, ça a été créé alors première diffusion 5 octobre 75
Il fête
et
ses
en
45 ans.
ouais, enfin
C'est écrit
46 quoi.
comme ça. Exposition BD et concert, Goldorak. Fête ses 45 ans en grande pompe.
Ouais,
Donc,
bon,
je sais pas comment on compte, mais.
Ben moi
écoute,
j'ai un article sous les yeux, c'est le 46e anniversaire de Goldorak.
c'est ça, c'est 46, hein. Enfin, pour moi, c'est
Oui,
46,
oui.
hein.
Mais il y a trois articles là, c'est 46 ans. Goldorak a 46 ans,
Oui, mais
anniversaire de
c'est son
ça.
anniversaire, c'est 46, quoi.
Non, il y a eu un an de Covid qui a fait que l'année qui est passée n'existe
Voilà, ça
pas.
compte pas, elle
Donc
n'existe
il
pas,
a
cette année
46 moins
n'existe pas.
un. On n'enlève pas des années comme ça, je suis pas d'accord.
Si, si, comme du ça, coup... ça nous rajeunit tous. Si, c'est bien.
Du coup, pour revenir sur la BD, on a au scénario Xavier Dorisson et Denis Bajram, qui, lui, prête ses crayons aussi avec Brice Cossu et Alexis Antenac pour tout ce qui est vaisseau, fond, arrière-plan, etc. Brice Cossu et Alexis Antenac, eux, font la partie personnage avec chacun une faction en particulier. Et le tout passe sous les crayons de Johan Guillot, j'espère que je ne me trompe pas, pour la colo, et qui fait un taf assez extraordinaire.
Pendant un instant, j'ai cru que tu allais dire qu'il passe sous les crayons de couleur.
Oui, il y passe aussi. Moi, je vous propose qu'on attaque directement par le vif du sujet au niveau de la BD. BD en 10 chapitres, avec une petite introduction que moi, personnellement, j'ai trouvé un petit peu longue connaissant la série, mais qui peut être nécessaire à ceux qui n'ont pas les références et les bases, on va dire, de la série. On a la mise en place très rapide où, après la destruction de Vega sur la Lune, la base est censée être abandonnée. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a un vaisseau qui est toujours présent et qui va attaquer la Terre. La Terre va se faire attaquer, enfin plus précisément, quand je dis la Terre, ça se passe au Japon, donc c'est le Japon qui se fait attaquer. Et le Japon est soumis à un ultimatum par les derniers survivants de Vega. En gros, soit le Japon est donné comme terre d'asile aux derniers habitants de Vega, soit le Japon et la Terre sera détruite et envahie. Enfin, envahie et détruite. Le pitch de base est plutôt simple. Et on se lance très rapidement dans la BD avec un petit peu un passage en revue de tous les personnages, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous les personnages sauf Actarus. Et tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, j'ai dit Albator et Goldorak, mais pas du tout, en fait, c'est Actarus et Goldorak. Donc je me reprends, je suis désolé. Comment vous avez attaqué du coup cette intro? Est-ce que vous avez, enfin, est-ce que ça a été quand même assez fluide, ou est-ce que vous l'avez pris plutôt de manière un peu longue, ou comment vous l'avez pris cette intro?
Alors j'allais commencer. Moi, je te dis, je l'ai pris comme comme une nouvelle BD, comme une histoire que je connaîtrais vaguement, mais que j'ai envie de relire. Et en fait, pour un nouveau lecteur ou pour un ancien lecteur qui s'est vraiment éloigné de l'histoire même de la série, qui a plus trop tout en tête, ça permet de remettre en place les personnages, remettre en place Alcor, Venusia, les habitants de Vega, les Golgoths, voilà, merci, chercher le mot. J'allais dire les monstres aux plantes, ça n'a rien à voir, c'est pas la même série. Donc voilà, les premiers chapitres jusqu'à l'arrivée d'Actarus permettent de vraiment remettre en place toute l'histoire et surtout toute la synergie qu'il y a entre les personnages. Et puis on voit également qu'ils ont évolué, que l'histoire se situe après la fin de la série télévisée, de l'animé. Et voilà, même si c'est un peu longué, c'était vraiment nécessaire. La BD est assez longue pour pouvoir se le permettre. Et ça permet vraiment d'inclure le lecteur dans l'histoire et vraiment de le plonger dedans. Sans cette introduction, je pense que le reste serait finalement assez, assez flou.
D'accord.
Flou et peut-être même fade, en fait. Parce que du coup, moi, j'aurais pas eu ça, je me serais pas accroché au personnage du tout, vu que je les connaissais pas. Donc pour moi, elle m'a pas du tout paru longue. Moi, j'étais déjà très contente du petit résumé, en dehors du prologue, hein, du petit résumé juste au début de la BD qui remet tous les personnages, un peu ce qui s'est passé pendant l'animé. Moi, ça, heureusement que ça y était, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais parce qu'au moins, ça prouve qu'il s'adresse aux fans, mais aussi aux néophytes. Donc du coup, je trouve que c'est sympa, merci les gars. Et après, moi, le prologue m'a pas du tout paru long, parce que pour moi, c'était comme si on présentait des personnages d'une nouvelle BD, donc voilà, et je trouve que les Golgoths ont beaucoup de classe.
On a compris que le Golgoth triple tête t'a beaucoup beaucoup plu.
Oui.
Toi, en fait,
ça me rappelle la crête. Mais en fait, ça me rappelle l'hydre. Je crois que c'est ça, l'hydre dans Hercule.
Ah ouais, exact.
Je crois que c'est pour ça que je l'aime bien. C'est, ça, c'est ma génération, c'est mon souvenir d'enfance. Du coup, ça fait.
Ça fait rappel.
C'est ça.
Mais globalement, bon. On a tous une perception différente de cette intro qui fait le taf. Alors moi j'avais un peu plus en tête parce que ma revisite, comme je le disais en off, je regarde régulièrement des épisodes de Goldorak le matin avec mon café. Enfin quand je dis régulièrement, c'est une fois par an, je me fais quelques épisodes manière. Donc je l'ai quand même assez bien en tête. Et du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a semblé un petit peu long. Par contre j'ai trouvé très malin la manière dont tout est ramené et tout est réintroduit en modernisant en fait tout ce qu'il y avait dans la série. Alors oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute cette technologie et tout, mais en même temps, on n'avait pas, en 1978, les robots volants, ça n'existait pas déjà. Donc,
si.
Il faut comprendre. Non, ça n'existait qu'à la télé, Cyril.
Ah bon ?
Du coup... Moi, j'ai bien aimé cette remise à jour un petit peu de l'univers. La suite de la BD, bon, on va essayer de pas trop spoiler, mais enfin, pour avancer, on va pas se mentir, l'ultimatum est posé, on va voir que Actarus revient. Au début, il veut pas reprendre le combat avec Goldorak, mais très vite, il va se retrouver confronté au fait qu'il a pas le choix. Donc Goldorak revient, en même temps, heureusement, parce que c'est une BD qui s'appelle Goldorak, donc s'il n'y a pas le Goldorak qui arrive, c'est un peu la merde. Et le reste de la BD va en fait se dérouler comme un épisode classique, avec ses rebondissements, son combat final, etc. Je pense qu'on va attaquer direct, enfin on va pas faire chapitre par chapitre, on va faire un tour global de la BD. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur cette BD? Comment vous avez profité un petit peu de cette aventure?
Alors, du coup, je sais pas trop. Franchement, moi, j'ai trouvé... Enfin, du coup, j'arrivais pas à savoir à un moment si le scénario, entre guillemets, il était bateau ou pas. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais c'est que... je trouve que tu le suis comme... Ouf, peut-être que j'ai tort parce que j'ai pas regardé, mais comme t'aurais regardé un épisode.
Ouais, mais du c'est coup, exactement ça.
Bah, du coup, c'était à la fois super entraînant, à la fois je m'en fichais qu'il y ait des enjeux, mais c'était bien qu'il y en ait et que ça dépasse un peu le truc du bien et du mal. J'avais l'impression de regarder un épisode, en fait, d'un truc avec des personnages auxquels tu t'attaches super facilement. Et par exemple... Moi, je connaissais pas du tout les personnages. Donc, le personnage de la sœur, j'oublie toujours son nom.
C'est Phénicia.
Voilà. Moi, par exemple, Phénicia, j'aurais adoré la découvrir plus jeune. Mais franchement, j'ai... Comme un épisode d'un animé cool, quoi. Enfin, j'étais trop... Ouais, voilà, toutes les pages où il y a le... Où il y a Goldorak qui apparaît, à chaque fois, j'étais là... Oh, le gros robot.
Après, c'est vrai que c'est beau. Hein. Enfin, on fera un point là-dessus juste après, tout en restant dans l'histoire. Je pense, Cyril, comme tu as un peu plus de background sur l'univers de Goldorak, tu as quand même peut-être relevé plus de choses que Margot qui n'a pas, elle, pas vu la série.
Oui, alors moi, ce que j'ai relevé, bon, mis à part le fait que Actarus est toujours habillé comme dans la série, donc ce qui veut dire qu'en 40 ans, il n'a pas changé de vêtements, mais les personnages ont évolué. Actarus en particulier, avec ce qui s'est passé entre le moment où il quitte la Terre à la fin de la série et le moment où on le retrouve dans cette BD, le personnage est devenu beaucoup plus mature. Là où parfois dans la série on tombait un peu dans le pathos, dans certains trucs où on en faisait des caisses, où c'était moitié larmoyant entre deux bastons Goldorak et Golgoth, la BD évite cet écueil-là et justement nous montre des personnages plus qui font toujours autant d'introspection sur eux-mêmes, sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ressentent et sur leur façon de protéger la Terre, mais qui ont un regard quand même beaucoup plus adulte. C'est là qu'on voit que finalement, le temps qui s'est passé entre la fin de la série et la BD, c'est réellement qui s'est passé dans la vraie vie du monde réel, mais qui s'est également passé dans cet univers imaginaire. On voit que ça a permis de faire évoluer pour ce personnage, non seulement Actarus, mais également Alcor, même s'il y a toujours cette histoire d'antagonisme, Actarus-Alcor, oui, c'est moi le plus beau, enfin voilà, c'est le truc un peu chiant, mais qui existait déjà dans la série. Mais même Alcor, on le voit, est quand même beaucoup plus mature. C'est finalement Vénusien, moi je trouve qu'il n'a pas trop changé. C'est pas parce qu'elle est devenue médecin ou je sais plus quoi que ça. Enfin voilà, je trouve qu'elle est un peu moins effacée, mais un peu pas assez femme forte finalement.
Ben en fait, déjà dans la série, enfin, je trouve que la caractérisation de ce personnage c'était pas le meilleur. Hein. C'était vraiment le plus mauvais personnage. Dans la patrouille des aigles, c'était. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est celle qui servait à rien. Mmh. Et là, elle a un peu plus de consistance, elle a un peu plus évolué, mais pareil, reste en retrait un petit peu là-dessus. Après, c'est pas évident parce que pas l'alter ego, mais le miroir de Vénusia, c'est Phénicia. Et Phénicia, c'est l'équivalent de Actarus version féminin, quoi. C'est badass, c'est casse des gueules, voilà. Du coup, c'est difficile, tu vois, d'exister peut-être, de faire coexister deux personnages qui auraient deux caractères identiques.
Ouais, mais tu vois, autant Phénicia, je m'en souvenais pas. Je dois avouer, je m'en souvenais pas. Je me souvenais de Vénusia et tout ça, mais Phénicia, je m'en souvenais pas. Autant, c'est vrai qu'en tant que personnage féminin, elle a beaucoup plus de présence que Vénusia. Et après, concernant la BD en elle-même, de toute façon, le gros méga kiff, c'est de voir Goldorak.
Bon après, j'avoue, tu vois, moi j'ai beaucoup aimé sur tout le long de la BD, en fait, où il repasse par les lieux emblématiques de la série télé, en fait. Que ce soit le ranch, quand il s'échappe et qu'il passe la nuit là, que ce soit le centre dont j'ai perdu le nom. Moi j'ai beaucoup aimé revoir tous ces endroits-là, tu vois, mis un petit peu sous le coup de crayon qui a évolué et tout, voilà. Enfin, c'est vraiment un kiff de revivre un petit peu tous ces lieux. Moi, j'ai imaginé plein d'aventures. Donc, ouais. Je sais pas. Après, on va pas se mentir, graphiquement, déjà, c'est trop beau. C'est ça aussi qui met en valeur.
Ah oui, mais graphiquement, c'est magnifique. Ne serait-ce que le dessin, les couleurs, le Goldorak, justement, il est superbement mis en couleur. Donc Johan Guillot, là-dessus, il a fait un travail de dingue. Surtout qu'en plus, c'est pas un Goldorak tout neuf, tout beau, tout propre. Alors, on voit, il a des traces de rouille, il est passé 40 ans sans bouger, quoi, Goldorak. Alors, on s'imagine qu'il faut lui faire une révision, on va faire la vidange et puis changer les bougies pour qu'il puisse voler à nouveau.
C'est ça. Je sais pas, toi, Margot, côté dessin, couleurs et tout, qu'est-ce que t'as
Ouais, bon, couleurs magnifiques. Moi, j'ai bien aimé le côté... en même temps, c'est méga fluide. En même temps, tu vois bien qu'il y a une différence de dessin entre les personnages et les décors. Parce que du coup, je trouve les décors aussi beaux et les personnages, ils sont à moitié manga, à moitié BD comics. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de styles différents et j'ai beaucoup aimé. Et après, je trouve que le découpage est sublime. Par exemple, t'as passé, Cyril, la scène où il y a, je ne sais plus son nom, mais le méchant bleu. Et oui, il y a toutes les... il y a toute la page qui se découpe comme en étoile, j'ai envie de dire, mais pas du tout. Mais il y a plein de découpages comme ça qui sont... Oui, voilà, comme en étoile. Et toutes les pleines pages où à chaque fois qu'il y a Goldorak, c'est une pleine page pour montrer qu'il est en... Alors, vous allez me taper dessus, mais moi, je l'appelle le mode bouée. Quand il est en mode bouée. Quand il fait...
Il est dans sa soucoupe.
Oui, moi, je dis qu'il est en mode bouée. Quand même on le voit pour la première fois, on parle... Franchement, je trouve le découpage super bien. Et même, il y a des... Ouais, même quand il insère des cases dans une pleine planche, enfin, c'est... J'y-il parce que j'ai l'impression de revoir...
Ça s'appelle une métacase.
Une métacase. Parce que j'ai l'impression de revoir le découpage de Universal War One. Enfin, il y avait beaucoup de ça.
Mais il y a un truc qui a... enfin, qu'il faut noter, parce que Goldorak, c'est quand même à la base un manga qui est en noir et blanc, format manga, qui là est adapté sur un format équivalent à un format de comics classique que nous on connaît. Et le découpage tend vraiment à du comics hein, par moment. Parce que ce soit sur les doubles pages ou même la page que tu expliquais là avec l'arrière-plan derrière l'habitant de Vega, dont j'ai aussi oublié le nom. C'est le général, je sais plus.
Ouais, c'est le méchant de la BD.
Voilà. Mais du coup, on a ce découpage qui est très très comics pur. Parce que c'est même pas du franco-belge. Hein, c'est vraiment orienté comics ce découpage, on dirait.
Alors, moi, ce que j'aime, j'irai encore même plus loin, c'est que le fait d'avoir, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir trois dessinateurs qui ont œuvré sur la BD, parce que c'est une BD, c'est pas un comic, c'est pas un manga, c'est une BD. On est sur un format papier franco-belge, enfin voilà, on a une couverture cartonnée, on est vraiment sur du format franco-belge. On a un peu d'influence européenne, beaucoup d'influence manga forcément, vu que ça vient quand même du Japon. Et beaucoup de comics dans le découpage, comme vous le disiez tous les deux. Et là-dessus, on a vraiment une osmose, et c'est rare en fait de retrouver ces trois influences globales dont tout le monde finalement se prévaut aujourd'hui, et de les retrouver aussi bien intégrées ensemble. Moi, contrairement à ce que disait Margot, ouais, les personnages se découpent un peu parce que tu vois que c'est un peu différent du reste, mais c'est pas choquant, je trouve que dans une page... ou dans une case où il y a les personnages et puis des décors derrière qui ne sont pas forcément faits par le même dessinateur. Je suis certain que dans leur façon de travailler, chacun avait sa tâche, mais chacun reprenait les dessins de l'autre. Et finalement, ils ont mélangé leur style. Si on ne le sait pas, ça peut très bien être le travail d'un seul dessinateur.
Oui, oui, non, ça fonctionne bien, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que je trouvais qu'il y avait... c'est pas un décalage, mais je trouve qu'ils ont vraiment l'air... Je sais pas comment dire.
En fait, je sais pas comment tu le vois et si c'est cette pensée-là que j'ai. Moi, tu vois qu'il y a plusieurs dessinateurs, mais ensemble, ils arrivent à faire une seule et même unité graphique de par l'univers et de par tout ce qui est mis en page. Et la colo y est pour énormément hein, là-dessus.
Oui, c'est peut-être ça aussi.
Ouais, c'est vrai que la colo, là-dessus, il y a un super travail de colo. Ils ont eu raison de prendre un coloriste à part pour faire s'occuper que de ça. Et puis, tiens, je voudrais juste revenir sur une chose. Quand on regarde les images de destruction de Tokyo, etc., quand ils se battent contre le Foissorak, qui est le Golgoth à trois têtes, ouais. dont Margot est fan... effectivement, ils en ont parlé pendant la conférence de presse et ça me. Non, c'est pas lui, c'est pas ça, Foissorak, c'est.
Non, c'est le vaisseau Foissorak, c'est un des trois vaisseaux de la patrouille des aigles.
Ouais, c'est ça. Ouais, je me plante, mais enfin bon, soit, quoi qu'il en soit. Ils en ont parlé pendant la conférence de presse également. Ils ont dessiné, mais. Et là, je m'en aperçois de les avoir entendu le dire. Ils ont dessiné un nombre de fenêtres.
Oui.
Mais c'est hallucinant. C'est vrai que quand on le sait pas. On s'en rend pas compte.
Pas gaffe, oui, on fait pas gaffe.
Ouais, on lit, mais au niveau du détail des décors, c'est un truc de fou.
Mais j'ai vu qu'il s'était pris des journées entières à naviguer sur Google Maps pour essayer de coller au plus avec des immeubles existants et des choses comme ça. Ça m'avait fait halluciner de me dire, tiens, il y a un dessinateur qui a passé une journée sur Google Maps, il peut te dire, moi je connais Tokyo juste parce qu'il a visité avec Google Maps, tu vois.
Non, mais c'est ça.
J'imagine trop.
Mais c'est là qu'on voit le travail qui est fourni, et puis comme ce sont des dingues, moi le premier quand je vois, alors j'habite à Paris, hein, mais quand je vois des BD qui se passent à Paris et qui respectent pas la topographie des lieux, ça me gonfle.
Oui, tout. Mais ça c'est le même principe qu'un film qui te fait croire qu'il passe du Trocadéro à, je sais pas moi...
à la place de la Bastille.
Voilà, un genre en trois rues, quoi.
Ouais.
Donc, non, toi, enfin, déjà, toi, tu le prends, tu t'es tapé trois bouchons, tu t'es perdu parce qu'il y a 12 sens interdits. Et donc, oui, forcément, c'est la magie de la BD.
Ouais, c'est ça. Mais non, là, je pense qu'ils ont, ils ont été fous, de toute façon. Je sais pas combien d'années ils ont bossé dessus, enfin, plusieurs, d'après ce que j'ai compris. Mais ouais, il y a un travail qui est fourni, qui est hallucinant. Effectivement, au niveau de l'histoire, au niveau de la caractérisation des personnages, au niveau des interactions, Mais au niveau du dessin, c'est vrai que voilà, c'est tout bonnement. Enfin, si on devait le noter, c'est un 20 sur 20.
Ouais. Moi j'avoue. Alors, j'ai eu plusieurs retours. Enfin, j'ai eu plusieurs retours. C'est que j'ai regardé un petit peu et il y a quand même pas mal de monde qui l'a lu et qui n'a pas du tout accroché. Alors que ça, il y a du gros fan hardcore qui n'est pas content parce que c'est pas sa version de Goldorak qu'il voulait voir, etc. Au personnel lambda, entre guillemets, qui connaissait pas l'univers et qui ont pris ça comme un bouquin SF, un peu comme Margot a fait, en fait. Elle a pris le Goldorak sans connaître vraiment l'univers et qui n'était pas emballé par ça. Et je peux comprendre parce que ça peut ne pas parler, mais graphiquement, moi je trouve que tout est là pour t'embarquer et te faire vivre une aventure de méca, quoi.
Ouais, mais je trouve aussi, et puis en même temps qu'on parle, je feuillette le bouquin, et plus je le revois, donc je l'ai lu une fois, il y a, quand on l'a eu, donc bien avant sa sortie, mais le revoir, ça me donne envie de le relire finalement.
Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais j'ai trouvé ce que je voulais dire pour le dessin. Pour le dessin, c'est que je trouve que les... Alors, ça j'ai peur que ça sonne péjoratif, mais ça l'est pas du tout. Je trouve que les personnages font dessin animé, alors que les fonds sont justement méga détaillés, très réalistes et tout ça. Et je trouve pas que ça contraste en mode c'est nul, on voit la différence, et pas du tout ça. Je trouve que ça se complète bien, mais je trouve qu'ils ont des... En fait, c'est leur visage, je trouve qu'ils ont vraiment un air... dessiné, c'est bizarre à dire, mais un air dessiné alors que tout a l'air méga réaliste en fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
ou pas.
Oui, un petit peu, ça fait un petit peu comme
mais pas un décalage animées. Choquant, pas un décalage choquant.
Ouais, mais en fait ça fait, alors moi ça va être un peu plus choquant, mais c'est un petit peu comme quand tu as les animés avec un fond dessin et des personnages un peu 3D, tu vois le décalage entre les deux, mais c'est pas forcément choquant.
Ouais, c'est peut-être pas aussi brutal, mais regarde, il est en mode bouée, là.
C'est très audiophonique. Regarde.
Oui, c'est vrai. Trop bien. Oui, c'est vrai, mais ce mode bouée me fait beaucoup rire.
Mais après, il y a un point qui est assez bien, je trouve, dans la manière dont le bouquin se conclut, en fait, au niveau de la manière dont c'est apporté. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est ce que Margot disait tout à l'heure, oui. Au niveau de la morale. Ça a été quand même apporté avec pas mal de nuances. Mais je te laisse reprendre ce que tu disais, un petit peu développé. Tu l'as mieux dit que moi.
Non, mais ça revient à ça. C'est qu'ils n'ont pas fait un truc en mode les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. Et je trouve que pour justement un dessin animé, enfin un animé qui est plus vieux quand même, où on aurait pu penser que justement ça allait tomber dans l'attaque qui vient de là-bas, on va les détruire et on gagne et on passe à autre chose. Ben non, c'est un peu plus complexe que ça. On sent que Actarus, il y a eu des trucs pas nets, que du côté des mecs en bleu, je sais plus leur nom, il y a des trucs pas nets non plus. Enfin, en gros, personne n'est tout noir, mais personne n'est tout blanc non plus. Bon, si, il y en a un qui est un peu tout noir, mais... Mais moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est plutôt nuancé et ça, je trouve qu'à l'histoire ça donne un truc vraiment genre justement propre. C'est pas ça aurait été tout blanc tout noir, je pense que j'aurais dit ouais c'était sympa mais bon un peu facile quoi. Là c'est facile mais bien fait.
Ouais.
C'est bien écrit.
Après ça apporte aussi une conclusion je trouve à l'univers. Parce qu'ils ont clairement annoncé, si je dis pas de bêtises, qu'il y aurait pas de suite, c'était pas prévu pour relancer la saga de Goldorak, etc.
Ils ont surtout dit qu'ils étaient crevés et que ils avaient besoin de se reposer.
Du coup, ça apporte un petit peu la conclusion à cet univers, comme je disais, parce que on va pas se mentir, si les deux ou trois derniers épisodes de la série TV apportent vraiment, tu vois, un petit peu le pool émotionnel en te disant voilà c'est la fin, ça te fait tirer la petite larmichette et voilà, la troisième saison est largement en dessous de ce que la série propose et là ça te donne un second souffle qui vient conclure de manière à te dire ouais en fait c'est bien que ça soit fini comme ça autant d'années après je trouve.
Bah, disons que c'est, ouais, comme tu disais, ça apporte une vraie conclusion à la série. La BD en elle-même est complète, que ce soit pour un lecteur, enfin pour un téléspectateur qui au final va être lecteur, mais on va dire pour un habitué de Goldorak comme pour un nouveau lecteur. Il y a un début, un milieu, une fin. Tout est expliqué. Ça peut être lu par un fan de longue date, comme ça peut être lu par un nouveau lecteur. La fin, sans spoiler, est mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est pas une fin heureuse, mais c'est pas une fin malheureuse non plus. Et puis, ça, on peut s'arrêter là, mais éventuellement, la porte est ouverte pour de nouvelles aventures. Donc, c'est bien. Enfin, voilà, c'est un tome qui, pour moi, est à lire.
Ah ben moi clairement je pousserais même plus tu vois pour les fans c'est à posséder absolument parce que voilà pour les curieux de SF et tout pareil parce que ça reste du robot ça reste un petit peu de l'espace etc et pour les curieux et même pour les gamins peu importe hein, t'as envie d'offrir ça à ton petit cousin ça sera le plus heureux du monde parce que même s'il connaît pas Goldorak il va vivre une vraie belle aventure il n'y a pas de Enfin, c'est pas.
J'allais vous le demander, vous diriez à partir de quel âge, si, même si on ne connaît pas Goldorak.
Moi, à partir de 8 ans, je file ça.
Ouais, mais c'est ce que j'allais dire aussi. À partir de 8 ans, tu peux commencer à comprendre. Tu vas pas tout comprendre et tu as plusieurs niveaux de lecture de toute façon. Mais à partir de 8 ans, tu vas lire l'histoire du gars qui revient de sa planète et qui pilote un robot pour défendre la Terre contre des méchants Golgoth.
Ok.
Je sais pas, après, enfin, on va pas se mentir, vu qu'il y a épuisement de tous les stocks, réimpression lancée, etc., ça a du succès. Toi, t'as quelle tranche qui t'achète, enfin, qui t'achète? C'est quel type
Pour
de
l'instant,
lecteurs qui sont venus te chercher ça?
c'est vraiment les gens qui ont regardé l'animé qui l'ont vécu et qui ont. C'est vraiment des fans de. Enfin, c'est des gens. Vraiment, c'est des. C'est des gens qui connaissent l'animé, quoi.
Tout ça pour pas dire c'est des vieux. T'as vu?
Non, j'ai
Ça
pas du
prend les
tout.
formes.
Non, mais attends, il y a un truc qui me fait super bizarre, c'est d'entendre parler d'animé pour Goldorak. Pour moi, Goldorak, c'est pas un animé, c'est un dessin animé.
Oui, ils vont pour un
Et
dessin
non, mais
animé.
non, c'est con, c'est juste que de la sémantique.
En fait, ben non, parce que pour moi, comme c'est du manga, enfin c'est Gonagai, ben tout ce qui est adaptation de manga, moi je dis que c'est un animé, je sais pas pourquoi. Oui, ça doit être générationnel, mais
Oui, non, mais c'est générationnel, c'est là-dessus. Et depuis tout à l'heure, tu parles d'animé. Et non, c'est un dessin animé. Goldorak, c'est pas un animé. Un animé, c'est un truc beaucoup plus récent.
bah après, dans tous les cas, si vous n'avez pas la BD et que vous voulez jeter un œil, la série animée ou dessin animé est dispo sur France 4. La BD est dispo un petit peu partout encore parce qu'il y a quand même du stock qui est dispo en rayon et tout, donc vous pouvez la trouver.
Ouais, comme il y
Traînez
a eu
pas
des
trop.
ouais, il y a eu des grosses mises en place, donc je pense qu'il y en a encore plein qui ont la BD, quoi.
Ouais, je
Ouais.
crois que c'est la version collector qui est introuvable, hein.
Ouais,
Oh
la
oui,
version
cela oui.
collector. Mais il disait ça pendant la conférence de presse, ça m'a fait plutôt rire que la BD était pas finie, il leur restait encore 60 pages, que tous les collectors étaient vendus, étaient en précommande et tout quoi. Ils ont même dû trancher. Je crois que c'est
Oui.
Margot qui me disait ça
Oui,
sur
ils ont tranché dans les collecteurs.
les commandes et tout quoi. Donc c'est quand même
Ben,
assez fou.
là, ils ont déjà lancé la. Bon, ils ont déjà évidemment lancé la réimpression de la version normale. Et sur les 40 000 qui ont été tirés, il n'y en a même pas assez pour servir les commandes de réassort des librairies. Donc ils vont devoir retirer encore.
Ouais, donc
Et.
ce qui serait sympa de connaître, c'est savoir à combien d'exemplaires c'est tiré. Comparer ça justement avec la grosse sortie d'aujourd'hui, parce que ou d'hier, je sais plus, du nouvel Astérix, à l'heure où on enregistre, qui est le recordman, je crois, de toute façon, des tirages en BD. Je serais assez curieux de connaître le tirage de Goldorak par rapport à Astérix.
Il y a eu 165 000 tirages de Goldorak, dont 65 000 collectors.
D'accord.
Donc ça fait quand même pas mal de... d'albums, quoi, au final.
Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai vendu plus de Goldorak que d'Astérix. Mais c'est pas la même date de sortie, je sais.
Ouais, non, mais c'est bien, ça permet aussi de voir que, mais justement, si on compare les deux sorties, même si elles ne sont pas sorties en même temps, il y a 10 jours d'écart entre les deux, ça montre aussi l'attachement du public, je dirais, à Goldorak, qui est finalement le même que celui qu'il peut avoir pour Astérix, et qui me fait repenser à une, je ne sais plus le titre, hein, mais je crois que c'est le dernier album qu'avait écrit Uderzo d'Astérix, où Astérix se battait contre un robot géant venu de l'espace qui était censé symboliser le manga.
Ouais, ouais, qui n'était pas très brillant. Hein.
Non, c'était pas très brillant, mais c'est surtout, ça me fait penser que cette guerre n'a pas existé, quoi. Les deux albums se vendent en un tirage qui, à mon avis, au final, sera similaire, mais se vendent très bien. Et puis, on peut aimer Goldorak et on peut aimer Astérix en même temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'impossibilité d'aimer les deux.
Non. Et par contre, tu vois, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, vu que Goldorak, enfin, vu que Kana a pu avoir les droits de publication de Goldorak, enfin, de publication, a eu le droit d'exploitation de la licence de Goldorak pour ce titre-là, est-ce qu'ils peuvent rééditer le manga de Goldorak qui était sorti à l'époque à 4 tomes chez Black Box, qui est maintenant introuvable à part à des prix juste de spéculation que je pourrais baffer des gens juste pour me faire plaisir. Et ça serait peut-être, tu vois, un truc à prendre. On les voit, ils ont lancé Lupin récemment pour faire un test. Goldorak, là, ça a l'air assez concluant. Est-ce que peut-être ils pourraient relancer la série manga originale ?
Alors, je crois que Black Box avait prévu une réédition. Alors, je ne suis pas certain que ce soit la série originale. Je crois qu'il y avait une suite qui avait été publiée. C'était prévu. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Enfin, voilà, il y avait quand même un truc chez Black Box autour de Goldorak qui s'appelle Mazinger Z ou je ne sais pas quoi. Enfin, un truc dans ce style.
Non, ça, c'était Mazinger Z, c'était la série avant Goldorak où Alcor est le personnage principal. Et c'est ce qui a... Enfin, c'est ce qui a rendu Goldorak impopulaire entre guillemets au Japon, parce que Alcor était relégué en tant que personnage secondaire et il passait un petit peu pour un nul comparé à Actarus. Et du coup, c'est à cause de ça que Goldorak a pas marché au Japon.
D'accord. Enfin, bon, il me semblait que Black Box, enfin, voilà, il me semble avoir vu sur leur Facebook, il y avait un truc de prévu autour de l'univers Goldorak.
Ouais.
Je pense pas que ce soit la série originale, mais voilà.
Après, Black Box, en tant que libraire, je peux pas vous en dire du bien.
Après,
donc j'aurais bien aimé, mais c'est eux qui ont aussi les droits de Devilman, et ça me fait chier, parce que du coup, je peux pas avoir Devilman à la librairie, mais ça m'énerve que... soit ce genre d'éditeur qui ait des droits de trucs aussi importants, quoi.
Après, ouais. Ça a le mérite aussi permettre la réimpression de vieilles séries. Voilà, le projet qu'il y a chez Black Box, c'est Giga Grandizer.
Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, Goldorak, c'est Grandizer, c'est son nom japonais.
D'accord, donc c'est Giga Grandizer.
Ouais, c'est possible que ça soit une version 2 de Goldorak.
Et c'est sur blackbonesboutique.com. Enfin voilà, je trouvais ça sur leur Facebook.
Ben, à voir plus tard. Dans tous les cas, moi, cette BD de Kana sur le Goldorak, je surconseille. J'ai adoré. 2021, c'était 8 ans à nouveau. Devant mon poste de télé, en train de regarder ma petite série Goldorak, sauf que là, je suis plus grand et j'ai passé un bon moment de lecture et je le relirai avec plaisir, vraiment. Vous, je sais pas de votre côté, est-ce que vous le relirez ou pas ? Est-ce que vous le conseillez ? Est-ce que vous allez l'acheter ?
Moi, pour l'instant, je le laisse se vendre tout seul parce qu'il n'a pas besoin de moi. Mais j'avoue que là, d'avoir revu les pages défiler, j'ai très envie de le relire.
C'est un peu la même chose pour moi aussi, en fait, d'avoir refait un petit tour sur la BD que j'ai lue avec grand plaisir. Ça donne envie de la relire. Là, pour l'instant, je n'ai toujours pas ma version papier, parce que je ne suis pas allé l'acheter. Mais, et puis en plus, je m'y suis mal pris, donc j'aurais voulu la collector et je ne l'aurais pas. Donc je vais attendre qu'ils réimpriment, qu'ils rééditent des collectors pour le troisième ou quatrième tirage. Avec un peu de chance, il y aura des bonus que vous n'aurez pas ceux qui avaient acheté la première version collector. Donc voilà, non mais oui, effectivement, je pense que c'est un objet à... C'est une BD à lire, à apprécier, mais c'est également un objet à avoir parce que voilà, c'est un truc qu'on a envie d'ouvrir de temps en temps, ne serait-ce que pour relire un chapitre, relire quatre pages, voir Goldorak se friter avec un Golgoth ou Actarus re-rentrer dans son vaisseau.
Imaginez... Mais... Enfin, l'imaginer faire des demi-tours
qui servent à rien,
qui servent à rien, mais il les fait.
C'est ça. D'ailleurs, cette séquence n'apparaît pas dans la BD.
Si, si.
Elle y est ? Ah merde, je l'ai pas vue.
Oui. Et franchement, j'ai regardé. On a comparé avec Margot par rapport à la séquence du dessin animé, et c'est mais case à case la même chose.
Ah ouais. Ah putain, j'ai pas fait gaffe qu'il faisait son demi-tour qui sert à rien.
C'est au passage quand il répare donc le Goldorak, juste avant de décoller et de sortir, tu le vois courir dans le comment on appelle ça, dans le couloir.
Oui, puis il saute dans le tunnel là, enfin.
Tout à fait, ouais. Et donc à ce moment-là, tu le vois glisser et faire son demi-tour qui ne sert à rien, mais qui est là et qui est un petit peu la marque de fabrique du Goldorak, de Actarus, quand il rentre dans Goldorak. Pour tout te dire, c'est page 99 exactement.
Ah, page 99, ben voilà. Je vais regarder ça.
C'est vraiment de la case à case, comme dans la BD, quoi. Et voilà. Enfin, on va pas tergiverser 107 ans. Putain, cette expression de vieux, quoi.
Ah ouais, j'avoue, dis donc. Ouais,
j'ai failli te le dire, mais je me suis dit, on m'a déjà engueulé parce que j'ai pas osé dire vieux, alors bon.
Et du coup, voilà, donc...
Non, il fait pas le demi-tour qui sert à rien. C'est ce qui me semblait, je l'ai vu, ça. Il fait la métamorphose, et il arrive dans Goldorak, mais on le voit pas faire le demi-tour qui sert à rien.
Oui, il y est pas, c'est vrai.
Je suis sûr qu'il est dans la BD. Non, je vous trouverai le passage.
Non, parce qu'on a regardé quand on a comparé. Il y avait le changement là, le truc où justement il se métamorphose là, mais il y avait pas. Pourtant, mais si, il y a le truc du. Non, il y avait le truc du tunnel où il glisse là.
Oui, il y a le truc du tunnel quand il se jette dans le tunnel. Effectivement, il court, il se jette dans le tunnel, il atterrit sur son espèce de petit scooter.
Ça, c'est exactement comme le générique là.
Après, il se métamorphose, il atterrit dans Goldorak et c'est là où il fait son demi-tour qui sert à rien avant d'arriver dans le poste de pilotage de Goldorak. Et là, il n'y est pas.
Oui, et ben quand j'ai lu cette BD, j'avais de nouveau 7 ans et mon imagination a fonctionné, a turbo fonctionné. Okay.
Ouais, voilà.
Oui, je pense que c'est plus ça.
Alors moi, je veux qu'on rajoute une page où Actarus fait son demi-tour qui sert à rien.
Dans ton futur collector.
Ben, je pense qu'on peut conclure ici avec un avis dithyrambique sur la BD, qu'on vous conseille d'acheter. La version collector, aux grandes dames de Cyril, est en grand format, et les pages, franchement, c'est encore mieux sur ce format-là. Ça rend vraiment hommage aux BD, les doubles pages sont folles. Donc, si vous n'avez pas pu l'avoir, il y a quand même la version normale qui est très très cool et qui est pas mal. Sinon, peut-être un tirage collector, mais je sais pas. Mais en vrai, tu sais ce que j'espère ? J'ai dit qu'on avait fini, mais on finit pas. C'est pas grave. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait une sortie qui sorte au Japon et je vais l'acheter parce que je veux cette BD avec des kanji partout dans les bulles. Juste pour dire, c'est trop cool. C'est vraiment. J'attends que ça.
Alors justement, tiens, on va encore digresser, mais est-ce que c'est le genre de BD qui peut sortir au Japon, parce que mis à part le sens de lecture, mais ça on s'en fout, mais c'est surtout, ils sont, voilà, la BD couleur format européen, est-ce que ça se vend au Japon, même si elle est découpée en chapitres comme ça se fait dans les mangas, est-ce que c'est le genre de BD qui peut se vendre au Japon ?
Oui et non. Alors oui, parce que on a l'exemple avec les petits recueils Tezukomi qui sont dispo chez Delcourt, qui sont en fait des publications hommages qui sont sorties par des dessinateurs français, donc format BD, format manga. C'est des courtes histoires de 1 à 2 pages qui sont sorties au Japon et qui ont marché. Donc on les a en France aujourd'hui, donc c'est possible que ça fonctionne. Là où ça serait un risque, c'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, Goldorak a moins bien marché. Du coup, ça serait un risque de parier ça. Et pour revenir à mon imagination débordante turbo-active, il faut aller à la page 115 et 116 où vous verrez Actarus faire ses demi-tours qui ne sert à rien.
Ah.
Ah, je suis en train de vérifier en même temps.
Aïe.
Alors, 115, 116. D'accord, ok. Effectivement, je reconnais, c'est page 116. Actarus fait son demi-tour qui ne sert à rien.
Mais voilà. Du coup, bravo. Cette fois, on va se conclure sur cette belle conclusion où j'avais raison. Ça me fait un grand plaisir. Je m'en vais comme un prince. Au revoir. Du coup, merci tous les deux pour ce petit épisode autour
merci.
De Goldorak. Petit bonus pour ceux qui n'en ont pas eu marre de nous écouter jusque-là. Fin novembre, vous aurez un épisode podcast interview avec les auteurs de la BD. Et on reviendra sur, pas la manière dont la BD a été faite, mais plutôt sur la manière de comment ils ont travaillé. Donc j'ai tout un panel de questions déjà tout prêtes. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Si vous avez des questions et que vous voulez que j'en profite pour échanger autour avec eux, ça sera avec grand plaisir que je les récupérerai. Pour tout le reste, vous nous retrouvez comme d'habitude sur le blog. Vous retrouvez également l'article consacré à Goldorak sur le blog qui est déjà paru. Pour tous les autres podcasts, c'est sur toutes les plateformes d'écoute et comme d'hab, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et les Instagram. Pour tout le reste, à très bientôt.